Je vais procéder à l'appel des conseillers. Abena Laurence.
Oui.
Enzi Jean.
Présent.
Arnaud Michel. Présent. C'est la fatigue, là. Faut le temps que ça fasse le tour. Hein.
Là, il faut rentrer physiquement.
Il n'est pas la meilleure. Il n'est même pas excusé en plus.
Bon, finalement, il est là. Arnaud Odile. Barouin Dolores, absent. Biaise Michel, absent. Baumler Laurent.
Présent.
Présent. Boucli Johan, absent. Pouvoir à René Brouillard. René Brouillard.
Présent.
Carpentier Annie.
Présente.
Carole Evneline.
Présente.
Clo-Marie. Absent. Pouvoir à Cécile Guido. Coulet Dominique. Absente. Fago Edwige.
Présente.
Présente. Floury Patrick. Absent. Fourdrin Stéphanie. Présente. Robon Lisiane, absente. Pouvoir à Christophe Lamy. Lamy Christophe. Présent. Le Mercier Jean-Claude, absent. Merlin Marie-France.
Présente.
Présente. Panier Francis.
Présent.
Présent. Rabé Philippe.
Présent.
Présent. Raguido Cécile.
Présente.
Présente. Raoui Ferrugia, absente, pouvoir à Odile Arnoux. Sauvage Patrick, absent, pouvoir à Patrick Stéphane. Stéphane Patrick,
présent.
Présent. Urbano Patrick, absent. présent. Le quorum étant de 14, la séance sera valide. Secrétaire de séance qui se présente, monsieur Laurent Baumler, qui est contre, qui s'abstient, Laurent Baumler, secrétaire de séance. Les pouvoirs reçus, donc Lisiane Grosbon, Ferrugia Raoui, Patrick Sauvage, Marie-Claude, Johan Boucli. Donc 5 pouvoirs reçus. Ordre du jour. Donc, ordre du jour, après l'élection du secrétaire de séance, il y aura l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 9 juillet 2015. Ensuite, il y aura la convention avec la MJC pour ce qui concerne la surveillance, les activités périscolaires pour les enfants de l'école maternelle durant la pause méridienne. Une convention avec le SMOTHD, syndicat mixte Oise Très Haut Débit, pour ce qui concerne l'installation du très haut débit à Verberie et donc des fibres optiques. Ensuite, la convention qui est liée au pass permis citoyen, qui est un dispositif qui vient d'être mis en place par le conseil départemental. L'ordre du jour comprendra aussi des modalités particulières pour la location de la salle de la ferme du château d'Aramon. Ensuite, des nominations, enfin des votes pour remplacer en fait Madame Martine Barra, démissionnaire d'un certain nombre de commissions. Commission bâtiment et espace vert, commission activité économique, commission chargée du plan local d'urbanisme, commission d'appel d'offres. Ensuite, un point sur la régie municipale. Puis le compte-rendu de l'activité de la concession GRDF 2014, Ça, c'est de l'information. Le rapport d'activité 2014 du SE60, c'est également de l'information. Et il y aura différents points d'information que j'aborderai également à ce moment-là. Donc 8h12, bon, comme on veut, hein, 20h12 et 20h14, un relais de M. Jean-Claude Lemercier. Bien, donc premier point de l'ordre du jour, eh bien le compte-rendu, l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 9 juillet 2014. Je cherche. Que j'avais là, normalement. Là, j'ai laissé en bas. Peut-être. J'ai laissé en bas. Voilà. Qui a des remarques particulières sur le compte-rendu du dernier Conseil municipal ? Qui vote contre, qui s'abstient. Donc le procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 9 juillet 2015 est approuvé à l'unanimité. Point suivant de l'ordre du jour, donc convention avec la MJC pour la surveillance et les activités périscolaires, enfin c'est l'animation des activités périscolaires pour les enfants de l'école maternelle, durant la pause méridienne. Alors nous venons, il y a quelques instants, je crois que nous étions à peu près tous présents à la cantine, qui ouvre donc ses portes demain. Je crois qu'on a pu voir que c'était un élément, un événement qui a mobilisé quand même pas mal de parents et d'enfants qui étaient présents. Ça a permis aussi à la société de se présenter. Et je rappelle pour mémoire que donc nous avons fait les choix suivants. En ce qui concerne les enfants de primaire, ils sont donc surveillés, accompagnés par à la fois des personnels communaux et des personnels extérieurs. Il y aura donc au moins là un personnel qui est sous un contrat du centre de gestion et puis les autres sont sous contrat de...
Trois personnes de l'association intermédiaire.
Donc ça, ça concerne... la surveillance des primaires.
Et les personnes qui viennent de l'association intermédiaire, elles ont toutes des diplômes petite enfance.
Voilà. Alors, pour ce qui concerne les maternelles, c'est évidemment plus délicat, ils arrivent à l'école et puis ils sont plus petits. Donc le choix qui a été fait, c'est de continuer finalement sur cet aspect, ce qui se faisait les dernières années, c'est-à-dire de confier... la surveillance et l'animation à la MJC, finalement, et à ses animateurs. Dans ce cadre-là, il vous a été envoyé un projet de convention que je vais vous demander d'approuver. Enfin, d'abord, il y a peut-être des remarques, des questions, et puis ensuite de m'autoriser, évidemment, à signer cette convention. Voilà, est-ce que sur cette convention, vous avez des points particuliers à aborder ?
Je voudrais simplement dire qu'on a mis en place la convention dans le même cadre que celui de la convention des nappes. C'est-à-dire que pour pouvoir voir clair dans les comptes de la MJC, on leur demande de nous fournir en fin d'année une situation précise de comptes qui sont remis dans le cadre de cette convention. Savoir à côté les dépenses qu'ils ont eues, les recettes qu'ils ont eues, puisqu'on sera amené peut-être à leur reverser une subvention complémentaire ou pas. Donc, comme on a pu le voir dans le cadre des NAP, ils étaient cette année, enfin, sur le premier arrêté, ils étaient excédentaires. Donc, voilà, c'est une façon de voir les choses beaucoup plus claires. Ça permet de scinder les choses.
Mmh. Bien. Qui est contre? Il y a moi qui ai une question. Hein. Qui s'abstient? Très bien. Donc, la convention est approuvée à l'unanimité et je suis autorisé à la signer avec la Maison des Jeunes et de la Culture de Verdery et de sa région. Bien, deuxième point de l'ordre du jour, convention avec le syndicat mixte Oise Tréhaudy. Alors en fait, le Conseil général a, sur l'ensemble du département, hein, hormis quelques zones, notamment la zone de Compiègne et de l'Arc, lancé le projet très haut débit qui consiste à ce que chaque foyer, chaque maison puisse se raccorder au très haut débit par le biais de la fibre optique. Dans le cadre de ce programme, initialement, il était prévu que Verdery soit que les travaux à Verdery se déroulent entre décembre 2015 et décembre 2016. Aux dernières élections, le conseil, enfin l'équipe qui maintenant est à la tête, non plus du conseil général mais du conseil départemental, a décidé d'accélérer. Et donc, dans le nouveau planning qu'ils ont défini, Verdery gagne presque un an, puisque les travaux du SMO-THD sur Verdery vont se dérouler. Ils ont déjà commencé, d'ailleurs, depuis le 20 août, par là, et ils vont se terminer pour la fin 2015. La fin 2015, à l'exception de deux zones, sur lesquelles je vais revenir, il y aura donc de la fibre optique partout. Quand je dis partout, ça n'arrive pas forcément jusqu'à votre maison. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent la fibre optique va arriver jusqu'à ce qu'ils appellent un point de mutualisation. Et c'est à partir du moment où vous définirez un contrat avec un fournisseur d'accès que le petit bout va de la mutualisation, du point de mutualisation jusqu'à votre maison ou votre appartement sera mis en place. Mais c'est... le contrat, en gros, avec le fournisseur d'accès, ce sera aujourd'hui du 30 euros par mois. Vous ne savez pas encore me dire à peu près combien, enfin, précisément, pardon, la somme, mais ça tourne autour de 30 euros par mois pour être connecté sur la fibre. Pour le petit bout dont je viens de parler, il n'y a rien de plus à payer. Ça fait partie du contrat. Simplement, c'est pas fait dans ce cadre-là, évidemment, hein, parce que c'est fait dans un autre cadre. Là, il s'agit donc bien de mettre en place la fibre optique sur tout Verdery jusqu'au point de mutualisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dont je voulais parler, il y a effectivement deux zones sur Verdery qui resteront pour l'instant un peu à l'écart. La première zone, c'est le Murgé et les deux maisons qui sont au pont de... sont du pont de Thiers, c'est ça, au pont de Thieu, j'ai un petit trou là. Enfin, les deux maisons qui sont près de l'usine vers Villeneuve-sur-Verdery, parce que là, il y a deux maisons, l'ex-usine ultra fine, il y a deux maisons qui appartiennent à Verdery. Donc elles seront raccrochées, pour des raisons géographiques assez évidentes, à la mise en œuvre, à la mise en place du très haut débit sur Villeneuve-sur-Verdery. De même, pour ce qui concerne la Mabonnerie et la rue de la Roche, le très haut débit sera mis en place en même temps qu'à Saint-Ine, pour exactement les mêmes raisons. Je ne suis pas aujourd'hui capable de donner la chronologie, ou du moins le calendrier pour ces deux endroits, parce que ce n'était pas encore défini par le conseil départemental. Voilà. Mais le reste de Verdery sera donc totalement fibré, enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, mais vous me comprenez, pour fin 2015. Et il doit y avoir 3 mois de délai entre la fin de l'opération et le début de la commercialisation. La commercialisation interviendra donc à la fin du premier trimestre 2016. Aujourd'hui, ce que je considère comme le point faible de toute cette opération, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un seul fournisseur d'accès. Bon, ils espèrent que d'autres fournisseurs d'accès vont les rejoindre, le fournisseur d'accès en question étant SFR. Maintenant, ils espèrent que assez vite Orange va venir et que derrière Free va venir. Mais là, effectivement, tant que c'est pas.
S'ils viennent trop tôt, ils participent beaucoup des investissements et visiblement, ça les intéresse pas trop.
Bon, voilà. Bon, après, Il y a des politiques. Il y a des politiques industrielles derrière, stratégie commerciale ou industrielle. Voilà, pour nous, j'espère que, effectivement, il y a d'autres fournisseurs d'accès qui vont venir, quoi, parce que ce serait quand même très nettement souhaitable.
Sinon, c'est un projet quand même qui coûte à la prise 370 euros, c'est 10 millions, puisqu'il y aura des réalisations.
Je complète. 370 euros, c'est au niveau de la collectivité locale, donc ici au niveau de la communauté de communes de la Basse-Autonne. Mais en fait, le coût à la prise, parce que le conseil départemental, c'est aussi l'argent public, pour moi, j'étais plutôt resté sur le chiffre de 1070 euros par prise.
Oui, moi je parle uniquement pour le niveau local.
Hein. C'est pour ça que je complète.
C'est déjà considérable. Ah,
c'est quand même une opération d'un coût en argent public qui est... Bon, mais on voit bien qu'en ce moment, ça répond à une priorité gouvernementale, puisque c'est rappelé en ce moment, tous les jours. Bon, enfin bref, ça se met en place. Maintenant, ça se met en place, on va en profiter. Il faut que... Tout ça se met en place.
L'autre lacune dans le projet initial, c'est quand même qu'il était prévu pour les particuliers, mais pas du tout pour les entreprises. Donc ça, c'est quand même, quand on parle de loi très haut débit, ça fait quand même sourire.
Alors, sur les entreprises. Alors aujourd'hui, pour en avoir discuté, parce que c'était effectivement un de mes soucis, donc les entreprises peuvent se raccorder, enfin peuvent avoir leur prise très haut débit. D'ailleurs, elles sont prévues dans les plans que nous avons vus avec René, hein, que toutes les entreprises soient bien raccordées au très haut débit. Le point faible du point de vue d'une entreprise, qu'est-ce qui différencie en fait dans ces domaines, hormis des exigences en débit qui peuvent être extrêmement importantes, puis une complexité derrière la ligne qui peut aussi être très importante. Ce qui différencie essentiellement, c'est la maintenabilité de la fibre, enfin de la liaison, la sûreté de la liaison. Donc quand une entreprise prend un contrat, elle a des assurances que si la fibre est cassée à un tel endroit, sous 48 heures, etc. Enfin, je ne sais pas si c'est 48 heures, mais en tout cas, il y a des délais très serrés qui ne sont pas dans le programme du SMO THD. Maintenant, les entreprises peuvent se raccorder. Bon, ceci dit, la fibre, qu'est-ce qui peut casser une fibre? Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent la casser, mais c'est quand même peut-être moins risqué que d'autres choses. Alors certaines entreprises sont peut-être aussi en train de le regarder, sachant qu'ils ont aujourd'hui, dès aujourd'hui, ils ont un moyen principal qui, lui, a toute la sécurité voulue. Ils disent, oui, mais peut-être que d'avoir ce moyen-là, finalement, en parallèle, qui ne coûte presque rien, ça nous assure une sûreté de fonctionnement encore supplémentaire, puisque, si notre moyen tombe en panne, même si on est réparé dans 48 heures, on peut penser que celui-là continuera à fonctionner. Autre détail sur ce projet, il utilise donc au maximum les réseaux, les supports, etc. existants. Donc par endroit, il passe en aérien, par endroit, il utilise tout ce qui est en sous-sol. Mince, comment on dit ça déjà? Les fourreaux, ça y est. Il utilise donc les fourreaux en souterrain, un peu partout. Toujours est-il que dans Verberie, ça devrait se traduire par vraiment un minimum de travaux de génie civil qui commencerait. Alors, je reviens sur le cœur de cette affaire-là. On nous demande en fait de signer une convention, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'équipements du SMO-THD qui vont être mis sur la commune de Verberie. Dans ce cadre-là, il y a deux types d'équipements qui vont être mis. Il y a d'abord un dispositif central qui s'appelle un NRO, nœud de raccordement optique, qui lui contient un nombre de fibres extrêmement, extrêmement important. C'est un bâtiment qui fait à peu près 12 mètres carrés. Et donc, ils le mettent en place sur Verberie. Il devrait concerner Verberie et un certain nombre de communes aux alentours. Cet équipement, alors c'est pas secret, mais enfin, je tiens pas trop à ce que ça se diffuse partout. On ne sait jamais après ce qui peut se passer. Cet équipement va donc être situé sur la route de pont, à côté du clos Charlemagne. D'ailleurs, à cet endroit, il y a déjà... une plateforme béton qui a été mise en place. Notre souci à cet endroit-là, j'y vais, je donne des compléments, Bon, sur les endroits, techniquement, il n'y avait pas tellement de choix, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas que le paramètre, on ne le met pas n'importe où, il faut que des réseaux arrivent, etc. Bon, c'était un endroit propice, c'était l'endroit qui nous proposait, ça semblait assez convenir, et on est très attentif à ce qu'il y aura autour comme paysage, en fait, comme pour que ce dispositif, qui sera quand même relativement, qui est un peu à l'écart, mais quand même en entrée de ville, ne soit pas trop visible. Voilà, donc il y a notamment Laurent Sabena qui a un œil affûté sur l'affaire là. Voilà, et puis bien sûr aussi les services techniques. Voilà, ça c'est le nœud de raccordement optique. Ensuite, il y a 5 points de mutualisation sur Verberie, dont vous avez d'ailleurs eu les emplacements dans les documents qui vous ont été distribués. Là, pour mémoire, bon, il y en a un à l'endroit où se trouve le nœud de raccordement optique. Il y en a un 19 rue des Remparts, ils sont en train de faire les travaux, en fait. C'est pour ça que vous avez vu un ou deux camions qui vont être mis juste contre les 6 logements qu'on a à cet endroit-là. Là, en fait, pas rue des Remparts, mais... Si, rue des Remparts, mais tout près de la route de pont, quoi.
Dans le bout de la rue.
Côté du jeu d'arc.
Tout à côté, d'ailleurs, du plateau surélevé, qui maintenant est en place. J'en profite pour lui. Ensuite, il y en a un sur la RD 123, donc un endroit précis de la RD 123. Vous avez l'endroit qui est signalé dans les documents qui vous étaient envoyés. Et puis... si vous voulez le voir avec plus de détails, il y a également des documents que je peux vous transmettre pour l'endroit en question, ou du moins montrer, parce que transmettre. Il y en a un rue Saint-Nicolas, un peu après le...
L'abbaye.
L'abbaye, qui est juste à la fin. Et puis il y en a un qui est rue du Port, tout près de la rue René Firmin. Voilà, et un peu à cette intersection-là. En tous les cas, ils nous ont fait des propositions. Nous avons fait une visite sur le terrain à laquelle était présent, évidemment, M. Leblanc, directeur des services techniques, René Brouillard, et on a été attentif à ce qu'ils ne plantent pas ça au milieu de nulle part, mais que ça soit adossé contre quelque chose et aussi discret que possible. Ce sont quand même des équipements qui, de mémoire, font...
2,50 m sur 60 cm
de profondeur. Oui, voilà, c'est ça. 2,50 m de haut ?
Non,
de longueur.
De longueur,
c'est 1,50 m de haut, je crois.
1,50 m, c'est peut-être beaucoup, mais soit, je ne sais plus. Mais vous avez raison.
2,50 m d'emprise.
2,50 m d'emprise, bon, voilà. À cet endroit-là. Donc il y en a 5 là qui doivent permettre de raccorder l'ensemble de ces endroits. Voilà, et évidemment, ce qu'on me demande, c'est de conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec le SMOTHD pour une durée de 20 ans, afin d'une part de l'autoriser à construire le nœud de raccordement optique dont je viens de parler, et d'implanter les 5 SRO, SRO pour sous-répartiteur optique ou point de mutualisation sur les parcelles qui sont mentionnées, et de m'autoriser à signer... non pas là, mais les, puisqu'il y en a 2, conventions à venir. Voilà. Pour moi, ça me semble... bon, hormis, après, M. Lamy donnait un certain nombre de bémols sur ce qu'était l'opération. Bon, maintenant, l'opération, elle est lancée. À nous de la réaliser, d'en profiter, d'en tirer le maximum. Bon, là, on est attentif parce que... voilà. Parce que
ça, a priori, c'est général, enfin, c'est départemental.
Oui.
Qui était très attentif à la question effectivement d'avoir un seul prestataire et tenter effectivement de mobiliser les autres, parce que sinon, encore une fois, c'est SFR qui a implanté ils ont racheté le câble, je crois.
Au numéricable.
Numéricable, c'est ça. Donc voilà, ce sont eux qui sont sur l'opération. Et pour tous ceux qui sont Orange, il y en a énormément aujourd'hui, Orange ou d'autres prestataires, Free ou autres, c'est soit vous changez tout. Soit patienter pour longtemps. Donc c'est vrai que c'est dommage pour cette opération. Parce que l'engagement de la collectivité à notre niveau, il est énorme quand même.
Bon, alors maintenant, après, bon, les choses ont été votées en leur temps. Hein. On peut en discuter, mais alors fallait-il dire non Mais de toute façon, ça a été fait, c'est fait maintenant.
De toute façon,
continue.
S'il fallait dire non, c'était effectivement à l'époque, au moment du lancement de l'opération. Aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous vendait on nous vendait le fait d'être les premiers. Donc voilà, c'est parti comme ça, avec une bonne vente, on va dire, du conseil départemental de l'époque, en tout cas des élus de l'époque. Par contre, maintenant, aujourd'hui, on aurait un désavantage compétitif à ne pas y aller, donc aucun intérêt.
Voilà. Bien, donc je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres questions, d'autres interventions, je propose de passer au vote et donc de m'autoriser à conclure les conventions d'occupation temporaire du domaine public avec le SMOTHD et de m'autoriser à les signer. Voilà. Enfin, non, je vous propose de conclure les conventions d'occupation temporaire et de m'autoriser à les signer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, donc à l'unanimité, nous sommes d'accord pour conclure cette convention d'occupation temporaire avec le SMOTHD et ensuite que je la signe. Je continue un peu sur ce sujet à titre d'information. Enfin, je change un peu, mais c'est voisin. Comme vous le savez, nous avons une antenne free qui doit s'installer au niveau des silos de la rue des Moulins pour en fait permettre à tous ceux qui sont équipés de mobile free de bénéficier du 4G. Suite à cette affaire, là c'est parti, les autorisations ont été données, on a néanmoins voulu faire mesurer les champs électriques puisque maintenant c'est l'Agence nationale des transports qui s'en occupe. Donc on a fait mesurer les champs électriques en 11 points de la commune. Donc j'ai reçu tout à l'heure les trois derniers points, donc cela je ne les ai pas regardés. Sur les 8 autres points, par rapport au niveau maximal autorisé, on est en gros 200 fois en dessous. Alors on est même en dessous de tout ce que préconisent les Suisses et sur Verberie. Donc de ce point de vue-là, on est aucun problème. Ah ben les Suisses, oui, ils sont, paraît-il, extrêmement exigeants sur l'affaire. En tout cas, on est même en dessous de tout ça. Donc, pour la tranquillité des citoyens, des habitants, déjà, ces informations et ces mesures, de toute façon, sont tout à fait publiques. Elles vont être mises en place, si elles ne le sont pas déjà, sur le site Carto Radio, sur Internet. Et ensuite, nous, de toute façon, nous allons faire aussi une communication par le biais du site Internet sur le niveau de champ électrique, parce que c'est plutôt du champ électrique en fait, sur ces différents points. Sachant que pour ceux qui souhaitent les consulter, je tiens évidemment à leur disposition les rapports. Je vous préviens d'avance, c'est assez technique. Celui du château d'Aramon fait 32 pages. Voilà. En tout cas, ils ont réagi très vite. On a demandé ça fin juillet. Ils ont fait ça du 3 au 6 août. Et ils nous ont donné les résultats.
Tous les points sur Verberie ont été contrôlés aussi.
C'est 11 points sur Verberie. Essentiellement, on a pris toutes les ERP où il y avait beaucoup de personnes. On a pris le château d'Aramon, on a pris le collège, on a pris les deux écoles, primaire et maternelle. On a pris certains points particuliers. On a pris justement un point à côté des silos de la rue des Moulins, parce qu'on s'est dit quand Free aura mis en œuvre son dispositif, on refera faire une mesure à cet endroit-là. On a pris un point à l'angle de la rue de Verdun et de la rue de René Firmin, parce que là, on a une antenne derrière les ateliers municipaux qui est très proche du sol et on voudrait voir ce que ça donne. Là, je ne l'ai pas encore vu. Pour ce point-là, j'ai reçu les résultats tout à l'heure. Et il y a aussi un point de la rue Lecourt, parce que là, on n'avait pas fait de mesure vers la rue Lecourt. Il y a un point à la gare. Je dois être près de 11. Hein. Il y a un point à la mairie. Fait la mairie aussi. Voilà. Ça donne à peu près une vue électrique de ce que peut être Verberie. Voilà. Ça, c'était à titre d'information. Je vous propose de revenir à l'ordre du jour. Passons donc au passe-permis citoyen. Alors, nouveau conseil départemental, nouvelle résolution. Le conseil départemental de base a instauré en fait une politique d'aide au financement du permis de conduire. Le département accorde une aide financière pour le permis de conduire de 600 euros aux jeunes de la tranche d'âge 18-19 ans en contrepartie d'une contribution de 70 heures au service d'une collectivité ou association. Bon, moi, personnellement, je trouve que la démarche est tout à fait louable. On donne une aide à des jeunes pour avoir leur permis de conduire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le permis de conduire, c'est quand même, pour rentrer dans la vie et pour trouver un emploi, c'est quand même quelque chose de très important. Mais en contrepartie, on demande effectivement une contribution de 70 heures.
On a un nombre limité de personnes ?
Pas pour l'instant. Alors, après, le nombre sera peut-être limité naturellement à un moment donné. Le conseil départemental, aujourd'hui, il demande, alors c'est possible pour des communes, pour certaines associations, il demande de devenir partenaire de cette opération. Donc, ce que je vous propose, évidemment, c'est de devenir partenaire de cette opération et d'être une collectivité qui permet ce genre de... de mettre en place ce dispositif, sachant que la contribution citoyenne de 70 heures, qui serait donc à notre service, nous sera bien utile sur des aspects espaces verts, etc., pour lesquels on pourra l'utiliser. On voit qu'on a sur les espaces verts, c'est pas simple tous les jours, quoi. Mais c'est pas le seul domaine. Et puis, sur le plan, je trouve que sur le plan du fonctionnement en société, c'est très bien d'avoir des droits et des devoirs, et donc d'apporter une réponse ou un remerciement ou une contribution en forme de travaux à une aide qui est donnée par le département. Alors, tu me demandes quel serait le nombre. Bon, j'imagine qu'à un moment donné, le conseil départemental va y mettre une somme, que cette somme divisée par 600 euros, ça va donner un nombre. Ben, j'imagine. Aujourd'hui, on nous demande simplement si on veut être partenaire de cette opération.
D'argent.
Comment ? Nous, on ne donne pas d'argent.
D'accord.
Et en lisant leur convention, pour toucher les 600 à 700 euros, il faut que la personne montre l'attestation comme quoi elle a fait les 70 heures de travaux, au service d'une collectivité. Donc les affaires me semblent bien bornées.
Les jeunes font les 70 heures avant de toucher les 600 euros.
Ouais. Alors, c'est avant de toucher les 600 euros, il doit montrer le papier. Ça ne l'empêche pas de commencer son permis de conduire, puisque lui, il peut tout à fait s'inscrire au permis de conduire, commencer à verser de l'argent. Il est marqué dans cette convention qu'à la suite de ça, le conseil départemental verse soit les 70 euros directement à l'auto-école.
600 euros.
J'ai dit combien ?
70, mais c'est le nombre d'heures.
Pardon. 600 euros. Il les verse soit à...
600 heures.
Soit à l'auto-école, soit s'il reste moins de 600 euros à payer à l'auto-école, il le verse à la personne en question. Ça me semble assez bien pensé. Enfin, voilà. Donc je vous propose effectivement de devenir partenaire de cette opération, de m'autoriser à signer donc les conventions de partenariat, parce qu'à pour chaque personne, c'est une convention de partenariat tripartite. Hein ? Sachant que de notre côté, il faut en fait que le conseil départemental soit d'accord. Là, c'est plus un aspect financier, voire d'autres aspects. Et ensuite, que nous aussi, si c'est quelqu'un qui... On pense que si on l'amène quelque part, enfin, on en aura des désagréments. On peut très bien dire non aussi. Hein. Mais c'est pas la philosophie, mais... Bon, on ne sait jamais, en fonction de la... Voilà. C'est pas la philosophie, je suis d'accord.
Est-ce que ça marche pour les conducteurs accompagnés ? Tu sais, les conducteurs accompagnés, ou est-ce que c'est à partir de 18 ans ?
Non. C'est à partir de 18 ans. Franche 18-19.
Oui, mais c'est pour ça que je me dis la question.
Pas majeur. Il faut des gens majeurs, en fait.
Bon, ça, c'est des questions à la limite qui peuvent être posées, parce que, bon, on a répondu non là, mais en fait, peut-être que rien n'empêche qu'il passe son permis, enfin, une partie de son... qu'il ait déjà commencé, qu'il passe entre 18 et 19 ans, je raconte n'importe quoi, et qu'il lui reste moins de 600 euros à financer à l'auto-école et que ça lui soit remboursé. Ça, c'est des modalités, je pense, qu'il va falloir voir directement avec le conseil départemental. Mais sur le plan, le principe de ça remet pas en cause, pour moi, la, comment dire, le bon côté de l'opération. Bon, question. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, allons donc devenir partenariat du conseil départemental sur cette action. Et vous m'autorisez donc à signer, au nom de la mairie et de la commune, les conventions avec le département de l'Oise et le jeune bénéficiaire. Location, point suivant de l'ordre du jour, location de la salle de la ferme du château d'Aramon. Il y a déjà quelque temps, nous avions loué au CNFPT la salle pour faire de la formation. Le CNFPT nous a demandé à cette époque d'avoir un tarif adapté, ce qui peut d'ailleurs s'expliquer par le fait que, de toute façon, comme il s'agit de la salle de la ferme, ils ne l'utilisent pas la soirée. En fait, c'est une utilisation en journée, et ça s'arrête là. Et on avait répondu oui, il y a quelque temps, ça ne fait pas très très longtemps, hein, en lui autorisant un tarif forfaitaire et exceptionnel de 200 euros par jour. À l'époque, c'était pour 5 jours, ça lui avait fait 1000 euros, de toute façon, ça fait une rentrée. Là, ils veulent reconduire la même opération pour 3 jours. Donc je vous propose d'adopter le même tarif forfaitaire exceptionnel, et donc de 200 euros par jour, soit au total, ça se déroulerait les 19, 20 et 21 novembre 2015. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, ensuite, suite à la démission de Lara, nous avons donc une absence dans un certain nombre de commissions, donc qui ont été mis ensuite dans les points, les quatre points suivants de l'ordre du jour. Donc sur la première, c'est la commission bâtiment-espace vert. En fait, sur la commission bâtiment-espace vert, je vous propose de laisser la commission en l'état, puisque à l'époque, nous avions adopté, fait venir un membre supplémentaire qui avait souhaité être présent, qui est M. Patrick Sauvage. Et donc, finalement, avec le départ de Martine Barra, on se retrouve dans la situation initiale. Bon. Donc, je retire, en fait, ce point de nomination de l'ordre du jour. OK. Commission activité économique. Donc, Mme Martine Barra était membre de cette commission. Qui se présente au sein de cette commission? D'accord, bah, ça me paraît bien, puisque tu viens d'arriver, Edwige, il faut au moins que tu intègres une commission. Edwige Caron. Edwige Fagot. Excuse-moi, Edwige, en ton nom de jeune fille, je suis désolé, toutes mes excuses. Bien, alors Madame Edwige Fagot, comme membre en lieu et place de Madame Barra, à la commission activité économique, qui est contre, qui s'abstient, donc élu à l'unanimité à la commission activité économique. Point suivant de l'ordre du jour, Madame Barra est également suppléante à la commission chargée du plan local d'urbanisme. Il s'agit donc de remplacer un membre suppléant à cette commission, qui est, se porte candidat. Odile. Odile Arnoux, comme suppléante à la commission chargée du plan local d'urbanisme, qui est contre, qui s'abstient. Donc, Madame Odile Arnoux, donc suppléante à la commission chargée du plan local d'urbanisme, Je reviendrai sur le plan local d'urbanisme dans les informations tout à l'heure. Commission appel d'offres. Madame Martine Barra était également suppléante dans cette commission. Donc, qui se présente pour être membre de la commission d'appel d'offres ?
Je me présente.
Madame, donc, membre suppléant, Madame Annie Carpentier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, Madame Annie Carpentier, suppléante au sein de la commission appel d'offres.
Commission activité économique, c'était compte ou titulaire ?
Comment ?
Pour
la commission activité économique, c'était titulaire.
Titulaire.
Il est déjà ici.
Point suivant de l'ordre du jour, régie municipale. Alors quand on fait des bêtises, eh bien on revient sur ces bêtises. Entre autres, là, ce sont les miennes. En fait, lors du conseil municipal du 16 juin 2015, nous avons voté une délibération pour créer une régie de recettes. Alors, c'est pas qu'en soi, c'est pas bien. C'est simplement parce qu'en fait, dans les délégations, vous m'avez délégué ce pouvoir-là. Donc, je vous fais plus voter puisque vous avez délégué. Je l'avais un peu oublié, c'était pas bien. Donc, Madame Javelot me l'a rappelé. Et donc, je vous demande simplement d'annuler cette délibération du 16 juin 2015 pour cause d'illégalité, puisque, voilà. On ne peut pas faire deux fois la même chose, quoi, en étant clair. Bon, ça, d'un autre point de vue, par contre, la mise en place de cette régie est indispensable et sur le fond du problème, on va la créer de la même façon. Voilà, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Maintenant, on passe plutôt dans de l'info, l'information, pardon. Donc, le compte-rendu de l'activité de la concession 2014 de GRDF. Donc, GRDF qui est, parce que nous sommes, j'espère que je ne dis pas de bêtises, hein, donc je pars sous contrôle, nous sommes propriétaires du réseau, et donc nous en donnons la concession à GRDF. Donc, il y a un compte rendu très complet des activités de GRDF qui fait une cinquantaine de pages, qui est à votre disposition évidemment, si vous souhaitez le lire. On l'a même sous forme numérique, donc si vous voulez, on peut tout à fait l'envoyer par mail. J'en ai retenu là quelques éléments de la fiche de synthèse. Bon, ça va assez vite en fait. On voit que sur le nombre de clients qu'avait GRDF, qui se fait payer sur qui se fait payer sur la cheminée puisque du gaz. Donc il y avait 820 clients, il y avait en 2013 810 clients sur Verberie. Il y en avait en 2014, fin 2014 je suppose, 820. Donc voilà, les choses sont à peu près stables. Il y en a un petit peu plus qui se sont abonnés. On voit par contre que les consommations, les quantités totales consommées sont beaucoup plus faibles. Presque 33 000 mégawattheures en 2013 contre 25 500 en 2014. Je crois que ça signifie bien que la météo était particulièrement clémente en 2014. On va voir si elle le sera aussi en 2015. Bon, suivez les recettes d'acheminement, enfin qui sont en baisse évidemment, parce qu'il y a eu moins de... Intéressant, sur le patrimoine, la longueur du réseau par matière. Donc déjà entre 2013 et 2014, le réseau n'a pas bougé. Nous avons gardé les mêmes longueurs. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde par matière, nous avons presque 8 km de réseau en polyéthylène. Nous avons 12 km 400 en acier. Et nous reste 81 mètres en autres matériaux. Donc les autres matériaux, je ne sais pas très bien ce que c'est. Est-ce que vous avez un éclairage là-dessus ? C'est pas du plomb ?
C'est
pour du gaz ?
Non, ouais. Ils l'ont changé.
On l'a changé dans la rue.
C'est reprise en plomb.
D'accord. Bon, bah, alors 81 mètres qui étaient en plomb fin 2014.
Ouais. Il y a plus 78 mètres.
D'accord. Autre chose, la qualité de la distribution. On voit que... Bon, il y a le nombre total d'appels. Alors, il y avait eu 12 appels en 2013, 29 en 2014. mais ce n'est pas significatif. C'est parce que je crois que sur un événement, ils ont dû avoir un grand nombre d'appels, parce que les gens s'en sont rendus compte assez vite. On voit que sur le nombre total d'incidents, il y en avait eu 6 en 2013, il y en a eu 9 en 2014. On me dirait que ça fait 50% de plus. Enfin, 50% de 6, c'est pas non plus. C'est peut-être pas sur je sais pas combien de kilomètres.
C'est souvent des fuites qui s'interviennent justement sur les raccordements en plomb.
Ah bon, d'accord. Et là, ils changent le raccordement en plomb.
À chaque fois, ils font tout.
Ouais, je crois qu'aussi qu'on avait eu une histoire un peu particulière. Mais...
Ouais,
elle est sortie de ma mémoire, mais il y avait une connerie faite qui avait conduit à l'arrêt de tout. Il a fallu tout relancer. C'était pas lors d'une intervention, une DICT ou quelque chose comme ça ?
Oui, ça avait coupé tout un secteur, il a fallu le relancer en pleine nuit.
Bon, voilà. Donc. Voilà, le suivi des travaux de tiers, enfin, ben, on voit qu'en 2015, bon, il y a des nombres qui restent. On est passé de 25 par rapport à 2013 à 15 DT reçus, donc demandes de travaux reçus et traités. Par contre, on est passé de 58 à 75. Demande d'intention de commencement de travaux reçus et traités. Bon. Voilà, ceux qui veulent consulter la totalité du rapport sont évidemment peuvent le faire. Autre point à l'ordre du jour, donc le SE 60. Donc on était dans le gaz, maintenant on arrive dans l'électricité. Donc pour le SE 60, c'est le rapport d'activité 2014. Donc le SE 60 est quand même sur un grand nombre de communes dans l'Oise. Nous, on est dans un secteur où on est un peu isolé à faire partie du SE 60, en fait. On fait partie du secteur local d'énergie de Pont-Sainte-Maxence, sachant qu'il y a 40 secteurs locaux d'énergie. Et c'est une grosse usine à gaz, hein, le SE 60. Quand ils se réunissent en assemblée générale, il y a 417 délégués titulaires et suppléants. À Verberie, nous sommes deux, René et moi, et nous nous rendons régulièrement en réunion. Dans les points forts de l'année 2014, donc le SE 60 a changé de locaux. Alors les précédents, je ne les connaissais pas. Maintenant, ils sont près de Beauvais, à Tillet, dans un immeuble, dans un bâtiment moderne. Mais après, ils nous ont expliqué que ça leur avait fait gagner pas mal d'argent en termes de location. Mais comme je n'ai pas vu le précédent local, qui devait être en centre-ville, je crois. Et là, ils sont sortis du centre-ville, donc a priori, ça leur coûte moins cher. Voilà, et c'est peut-être plus fonctionnel également. En tout état de cause, pour ce qui nous concerne, ensuite, le syndicat évoque qu'à fin 2014, il a lancé en fin d'année des groupements d'achat d'énergie, d'abord de gaz et d'électricité. Donc je vous rappelle que nous avons souscrit à ces deux groupements. En ce qui concerne le gaz, le groupement est maintenant effectif. Donc je me tourne vers... Que ça nous a permis, a priori, par rapport au prix du marché, de gagner 20%.
Entre 20 et 25%.
Entre 20 et 25%. On a même eu une bonne surprise. C'est qu'on avait déjà renouvelé une partie de nos contrats avec des tarifs plus bas, mais qui n'atteignaient pas les 20%. Et comme c'est le même concessionnaire, enfin, prestataire, qui a obtenu le marché, il a dit non, mais je reprends tout au tarif minimal de moins 20%. Donc, je crois que la cantine en fait partie, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on a fait une bonne opération. On a fait la même chose pour l'électricité. Alors, l'électricité, c'est en ce moment en cours. On attend les résultats. De toute façon, ça me semble... Voilà, pour le gaz, ils disent là qu'ils avaient, fin 2014, ils avaient 50. Voilà. Donc ça nous a permis donc des grosses communes. La CCBA avait aussi pris le groupement gaz. Donc on a bénéficié de cette affaire-là. Il parle aussi de l'éclairage public. Sachant que sur l'éclairage public, ils proposaient aux communes de transférer leurs compétences éclairage public. Et ils disent qu'aujourd'hui, 80% des communes ont délibéré dans ce sens de leur transférer les compétences éclairage public. 364 communes sur 454. Alors aujourd'hui, on fait partie de celles qui n'ont pas transféré. Bon, c'est un sujet qu'il faut peut-être encore qu'on regarde, parce qu'a priori, maintenant, il y a deux types de transferts. En tout cas, à l'époque, sur le type de transfert qui était présent, ne pas oublier qu'on leur transférait aussi la... Aidez-moi.
Sur la consommation définitive.
La TFCE, mais ça représente sur Verberie à peu près 40 000 euros par an. Donc, on avait fait le choix, enfin, on n'a pas été dans ce sens-là. Bon, maintenant, on peut toujours se poser la question aujourd'hui. Par contre, voilà ce que dit aujourd'hui le SE 60.
Bon. On peut transférer qu'en partie.
Comment ?
On peut transférer qu'en partie. Il y a d'autres modalités.
Oui, on peut transférer qu'en partie. Donc, on va peut-être les faire venir. Surtout que nous, on a fait un test, je le dis pour tout le monde, je ne sais pas si tout le monde est au courant, nous avons mis en place 5 dispositifs à l'aide sur une partie du clos Saint-Corneille, qui n'est pas la partie qui est devant ma maison. On ne lance pas avec ça. C'est l'autre partie. Et ça s'est fait à l'insu de mon plein gré. Et c'est l'autre partie. Donc toujours est-il que moi, je vais voir les habitants pour leur demander ce qu'ils en pensent. Vous pouvez maintenant, c'est plus facile d'aller voir, il fait nuit plus de bonne heure. Tous les habitants que j'ai vus ont trouvé ça très bien. Alors on avait mis au budget 10 000 euros de côté en disant ben, en 2015, on fera une opération de renouvellement, en particulier plutôt sur les boules des ampoules au mercure qui sont très consommatrices et qui sont maintenant interdites à la vente de toute façon. Donc on n'a pas encore avancé sur ce sujet-là, mais on va sans doute avancer. On attendait les résultats. Alors dans les LED, il y a plusieurs qualités. En ce moment, la Chine a envahi un peu le marché. Ce n'est pas des LED chinoises qu'on a prises, mais des LED allemandes de la société Hella, qui est la société qui en fait a à peu près le monopole sur toutes les voies LED et qui s'est lancée un peu dans l'éclairage public. Après ce qu'on voit, ce qu'ils ont mis en place, bon, évidemment le temps de retour est un peu court hein, sur de tels dispositifs. Ça se passe bien, toujours est-il que pour nous, ce qui était intéressant, je parle sous le contrôle des services techniques, n'hésitez pas à compléter, c'est que nous, sur la problématique des ampoules au mercure et des boules, si on partait sur certains dispositifs, il nous fallait changer le mât plus la boule. Aujourd'hui, là, avec ces dispositifs, on n'a pas besoin de changer le mât. Il suffit de poser le dispositif dessus, de le brancher bien sûr, hein, mais l'intervention est extrêmement légère, on garde nos mâts, et ça nous revient à peu près, alors là je parle de mémoire, je me méfie toujours, à 200, alors il y a peut-être la pose à rajouter.
Oui, on va rajouter la pose, mais là c'est à négocier maintenant sur la quantité que l'on pourrait définir, mais on est aux alentours de 300, on va parler des TCC, c'est pas un peu plus à tout le monde, aux alentours de 300 euros la tête.
Sachant
qu'un mât complet,
ouais.
Faut 1300 euros.
Donc c'est peut-être une solution élégante à ce problème, et je ne vous cache pas que je vais essayer de convaincre aussi Picardie Habitat de participer quelque part à cette opération sur ces équipements collectifs. Bon, là...
Passe autre chose.
On va voir. Voilà pour, en tout cas, les activités du SE 60 pour l'année 2014.
Le chiffre exact, ce que j'étais en train de rechercher, on est à 228 euros hors taxe.
Ouais. Et c'est celui qui compte pour nous, non ?
C'est celui qui...
Non. On est remboursé de la FCTVA là-dessus ?
Je pense pas.
Non ? Bon, alors c'est le TTC.
Donc, enfin, l'investissement TTC pour la quantité que nous avons opté, 36, de 9 816 euros TTC.
Mais sans la pause ?
Sans la pause.
Donc, à voir. Voilà pour les deux rapports, rapport d'activité et compte rendu d'activité. Quelques points complémentaires. J'ai donc également, à titre d'information, il est à votre disposition, c'est le rapport d'activité du SMV, ou rapport d'activité, madame. Hein. Rapport d'activité 2014, donc du syndicat mixte de valorisation de l'Oise, qui, je le rappelle, s'occupe du traitement de tous nos déchets. Voilà, donc ceux qui veulent consulter ce rapport d'activité, ben, peuvent le faire au secrétariat. Alors, autre point également, en ce moment, on en parle quand même depuis un certain temps, on en parle aussi beaucoup dans la presse. Comme vous le savez, déjà en 2014, nos dotations données par l'État ont bien baissé. Elles vont continuer, pour 2015, elles avaient déjà baissé en 2014. Elles ont baissé, elles ont baissé en fait de plus de 60 000, presque 70 000 euros en 2015. Et en 2016, elles baisseront d'un certain nombre, une certaine quantité, somme que je suis incapable de donner pour l'instant, puisque on nous avait dit. En gros, l'année 2015, l'année 2016 et l'année 2017, il y aurait les mêmes baisses, sauf que depuis, j'entends dire que les modalités de répartition des dotations globales de fonctionnement au niveau des communes, les paramètres qui permettent de, vont changer, et que ce serait dans la loi de finances 2016. Donc là, à quelle sauce on va être mangé ? Si c'est dans la loi de finances 2016, ça veut dire que ça s'applique en 2016, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, vous dire que sera à l'heure actuelle ce que seront nos dotations globales de fonctionnement, sur Verbering, nous touchions quand même une somme non négligeable, puisqu'on est à bien plus de 100 euros par habitant. Voilà, ça me rend quand même assez inquiet, cette affaire-là. Toujours est-il que dans tout ce contexte, qui est lié d'une part à la baisse des dotations, mais d'autre part, pour ce qui est pour moi incompréhensible, au fait qu'on continue à... Enfin, des normes qui arrivent partout. On signalait à la cantine tout à l'heure. Enfin, la cantine est un cas. Mais on est soumis à des normes de partout, des transferts de charges sur les droits du sol, des normes dans des domaines environnementaux qui n'arrêtent pas de prospérer. Donc tout ça conduit à un effet ciseau qui est particulièrement dramatique. Les dépenses augmentent d'un côté... les dépenses obligatoires sur lesquelles on n'a pas la main, et de l'autre côté, les recettes en provenance de l'État diminuent fortement. Donc c'est une situation très complexe. Toujours est-il que dans ce cadre-là, l'AMF, donc l'Association des maires de France, propose effectivement une journée le samedi 19 septembre, une journée de protestation de cette situation, le samedi 19 septembre dans toutes les mairies de France, et que je compte donc m'associer à cette démarche, sachant que aujourd'hui, dans le dernier document que j'ai reçu, ils nous disent, je peux vous lire ce que j'ai reçu, hein. Le 29 juin dernier, nous vous informons que le bureau de l'AMF, donc l'Association des maires de France, avait décidé, compte tenu de la gravité de la situation, et avant que le gouvernement n'arrête le projet de loi de finances pour 2016, d'engager une journée nationale d'action le samedi 19 septembre prochain dans toutes les communes et intercommunalités de métropole et d'outre-mer. C'est une décision sans précédent dans l'histoire de l'AMF qui s'appuie sur 17 300 délégations de soutien déjà reçues contre la baisse des dotations. Donc nous, déjà, j'ai dit délégation, pardon, je reviens, c'était délibération. Et nous avions déjà pris cette délibération. Il est essentiel à cet égard que les communes qui n'ont pas encore délibéré puissent le faire dès possible. Ce n'est pas notre cas. Cette décision s'inscrit plus généralement dans notre volonté de défendre l'institution communale trop souvent marginalisée et fragilisée au fil des textes législatifs et réglementaires qui contraignent l'action des collectivités locales. L'objectif principal de cette journée est de recueillir le maximum de soutien de nos concitoyens, marquer les esprits et faire date par l'ampleur de la mobilisation. Pour cela, et indépendamment des très nombreuses initiatives déjà prises par vos associations départementales, nous vous invitons avec tous les élus de votre commune à organiser un moment symbolique de rencontre avec la population le samedi 19 septembre de 10 à 12 heures. Donc je compte bien devant, dans votre mairie ou dans tout autre lieu qui vous semblerait emblématique et pertinent. Et selon des modalités laissées à votre entière appréciation, les associations et tous les acteurs locaux peuvent bien entendu être conviés à relayer cette mobilisation. Donc moi, je comptais participer à cette mobilisation. Et voilà, je demande la présence d'un maximum d'entre vous, ce fameux samedi 19 septembre, matin, où laquelle, ce que je me propose de faire, c'est de recevoir les personnes à la salle des mariages. Je pense que c'est ça, peut-être, c'est le lieu me paraît assez adapté. pour tout simplement leur dire ce qui se passe et leur dire ce que l'on vit et ce qu'ils vont vivre dans leur quotidien. Parce que c'est ça derrière. Ce midi, on parlait encore de la ville de Toulouse, où les impôts montent de 15%, les piscines sont fermées pour deux d'entre elles, et puis tout ce qui est restauration scolaire et périscolaire, ça monte en flèche. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'argent.
Concrètement, ça va se passer comment? Il faut inviter la population? Il faut faire quoi pour que les gens sachent
et il va falloir inviter la population pour le 19 septembre.
Pour communiquer sur le sujet.
On est d'accord.
Comme tu parlais d'associations, on peut peut-être passer au travers des présidents d'associations qui relaient l'information auprès de leurs membres.
C'est une voie comme une autre, mais on passe aussi par le tableau lumineux, on peut passer évidemment par le site internet de la mairie et les inviter à venir ce jour-là se rassembler devant la mairie. Notre publication, Le Petit Sautrio, est en cours de rédaction. On peut aussi mettre juste un tout petit mot là-dessus. Je pense que là, déjà, c'est pas mal comme info. Je pense, oui.
On espère.
Oui, on y travaille. Alors, après, ils ajoutent, donc on va mettre aussi quelque chose de toute façon sur le pépite de la mairie, enfin, c'est à voir. Je continue. Plus généralement, nous vous proposons de signer l'appel du 19 septembre pour les communes de France et d'inviter le plus grand nombre possible de nos concitoyens à le faire. Cette pétition qui pourra être signée manuellement en mairie, je propose de mettre ça en place. Et surtout en ligne depuis le 15 août sur le site www.change.org et peut donc être soutenue très facilement et de manière électronique sans attendre. Elle est également accessible dès maintenant depuis le site de l'AMF. Voilà. D'ailleurs, quand vous ouvrez le site de l'AMF, aujourd'hui, c'est la première chose que vous voyez sur le site. Ils ajoutent « Cette pétition est particulièrement importante dans notre dispositif. » Plus le nombre de signatures sera important, plus l'impact national de notre mouvement sera fort. Voilà. Son succès dépendra donc en grande partie de vos démarches pour inciter les citoyens, à la signer. Il s'agit de parler, communiquer le plus possible lors de vos déplacements des différentes manifestations auxquelles vous participerez à partir du 24 août et dans vos supports de communication divers. D'ailleurs, je me mets un coup sur les doigts, puisque je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'était pourtant une magnifique occasion pour le faire. Voilà, alors il y a des dépliants, etc. à mettre dans la mairie, on va regarder de ce côté-là. Hein, c'est accessible depuis le site de la mairie, de la MF. Voilà, commentaire sur cette affaire. Oui, il y a un kit mobilisation, oui. Alors, j'ai entendu les déclarations de M. Valls qui disait qu'il allait mettre 1 milliard d'euros, mais il en prend 11, il en remet 1, ça fait quand même moins 10. Et puis, on ne sait pas trop quelles seront les modalités de financement, de répartition, etc.
Pas se leurrer, ça ne changera rien.
Ce qui est quand même horrible dans la démarche du gouvernement, c'est quand même d'essayer de vendre des meilleurs comptes de l'État au détriment des collectivités.
Ouais. Je suis bien d'accord.
C'est ça aujourd'hui. Hein. C'est se décharger d'un certain nombre d'obligations, de compétences, ne serait-ce que sur l'urbanisme ou autre, et au détriment des collectivités.
Quoi. Une entreprise privée, lorsqu'elle publie ses comptes de résultats, publie des comptes de résultats à périmètre constant. Je ne dis pas de bêtises. Oui, à périmètre réel. Or là, dans ces termes-là, l'État n'arrête pas de réduire son périmètre d'intervention. Mais évidemment, l'argent, les économies, ça ne peut se traduire qu'à périmètre constant. Sinon, ce n'est pas de l'économie. C'est refiler le bébé aux autres.
Et ce qui est terrible, encore plus terrible, je dirais, c'est que le discours aujourd'hui des politiques du gouvernement, c'est de pointer aussi du doigt les hausses d'impôts des collectivités. Sauf que quand ça vous tombe dessus, à un moment donné, sauf à vivre dans le luxe et à pouvoir... Et
après, on ne peut pas présenter de budget déficitaire, contrairement à l'État.
Donc on a des agents, on a des citoyens aussi qui attendent certains services que vous ne pouvez pas supprimer du jour au lendemain.
Oui, ben on a évoqué quelques sujets tout à l'heure. Alors, il y en a qui viennent aggraver nos comptes. Je ne l'ai pas listé, là. Enfin, j'ai une liste, mais je ne l'ai pas là sous les yeux. Mais j'en ai évoqué un certain nombre tout à l'heure. Mais derrière ça, on voit aussi arriver des choses bon, qui sont peut-être incontournables. Hein. C'est ben, ne serait-ce que tous les travaux sur les routes. Soudainement, ça va nous coûter, je ne sais plus combien, puisqu'on doit faire maintenant à la fois le diagnostic amiante, alors en priant Dieu qu'il soit négatif. Ça nous coûte déjà 10%. Hein. Ensuite, on doit faire maintenant la détection des réseaux, re 10% en plus, à peu près, même plus que ça.
Plutôt 15-20%.
Voilà. Donc tout ça, c'est des coûts supplémentaires qui interviennent. Alors celle-là, pour le coup, s'il y a de l'amiante dans les routes, je suis bien d'accord, il ne faut pas laisser des gens... Il faut faire quelque chose, quoi. Quand même la santé des gens qui le font. Mais bon, ça c'est un cas, mais il y en a bien d'autres qu'on continue comme ça. Et justement, on en reparlera en commission du plan local d'urbanisme, mais je vais vous en parler un petit peu sur ce sujet juste après. Bon, néanmoins, pour ne pas couper les commentaires qu'il pourrait y avoir sur le sujet qu'on vient d'aborder, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais ce qui est insupportable, à la limite qu'il faille faire des efforts parce qu'on a trop dépensé par le passé, ok. Enfin, bon, mais d'abord, celui qui a fait les dettes devrait quand même... Bon, je rappelle quand même qu'il y a 1 milliard d'euros qu'on vient de mettre à la poubelle avec les portiques, je ne sais plus quoi là, Ecomove, qu'avec l'affaire des bateaux russes, 1 milliard à compléter par d'autres trucs à côté, tout ça, ça commence à faire beaucoup. Et pour le coup, là, on ne fait pas d'économie, on fait autre chose.
Gaspillage.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cette affaire-là? Sinon, je pense qu'il faut effectivement mobiliser autour de vous déjà, expliquer que c'est important pour le quotidien des gens. Parce que aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure aux personnes, sur le coût qu'ils vont payer à la cantine, ça représente à peu près 50% du coût du repas. Donc il y a 50% qui sont payés sur le budget communal. Si le budget communal s'effondre, il faudra augmenter le périscolaire... la cantine, il faudra augmenter les impôts, voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont incontournables en proximité, l'entretien des routes, on est déjà à Verberie, on est déjà quand même, de ce côté-là, on a du retard. L'entretien de nos bâtiments municipaux, je ne vous parle pas des normes accessibilité, tiens, sur lesquelles on va se réunir la commission travaux et on doit rendre les agendas pour le 27 septembre. Où on nous demande de mettre en place des ascenseurs à gauche, à droite, voilà. Bon, commentaire là-dessus. Très bien. Alors, point suivant d'information, justement, plan local d'urbanisme. Alors, sur le plan local d'urbanisme, ça traîne en longueur. Alors, il y a plusieurs... la raison principale, c'est peut-être parce qu'on avait beaucoup de travail, quand même, déjà, mais c'est pas la seule. Je vous rappelle qu'on a reçu fin avril la note de cadrage de l'État sur l'aspect environnemental de notre PLU, qu'on nous demande au titre du Grenelle 2 maintenant de faire sur Verberie une évaluation environnementale stratégique, que dans cette évaluation environnementale stratégique, on doit faire un certain nombre d'études faune-flore si on veut maintenir une partie... des zones pour, notamment, pour, en ce qui nous concerne, pour l'activité économique. Là, on a fait faire des devis par des sociétés, donc on va en parler plus amplement en commission PLU, mais on a fait appel, enfin, par l'intermédiaire de Urba Service, à 3 bureaux d'études. Il y en a un qui n'a pas répondu, le bureau d'études de Biotop a répondu et le bureau OGE. Et les affaires tournent autour de 30 000 euros.
Cycle complet ou pas ?
C'est sur un cycle, alors il y en a un, c'est sur un an complet, et l'autre c'est sur 8 ou 9 mois. Enfin, c'est le cycle à peu près complet. Voilà. Donc, pour vous dire, voilà, ça c'est des coûts, ça n'existait pas. Hein.
Parce que pour redire à tout le monde, effectivement, sur les études FunFlow, vous étiez, normalement, c'est effectivement, surtout vous parliez d'un périmètre à observer finement. Donc, vous devez observer sur l'année complète, chaque saison, pour chacun des spécimens, que ce soit insectes ou autre. Et si on perd en plus, dans certains secteurs, des espèces spécifiques, c'est.
Bon, alors ça c'est le premier point. Donc en gros, il faut avoir 30 000 euros qui n'étaient pas évidemment au budget, pour le coup, à mettre sur ces affaires-là. De toute façon, TSRE, on a pris un certain nombre de décisions. Là-dedans, il s'agit en fait derrière, quand vous lisez bien, c'est marqué dans ce qu'on a signé, il s'agit derrière ça de faire payer les communes. Vous allez payer les études qu'on aurait dû faire, qu'on ne sait pas financer, donc c'est vous qui allez les financer. C'est quand même un peu ça. Ensuite, sur le même plan, la main fermée. Donc la main fermée, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que la plupart du domaine de la main fermée passerait en zone humide. Donc... il y a eu donc des investigations complémentaires par le SAGEBA et par le Conservatoire National de Bayeul agréé auprès des tribunaux. C'est ça, si je ne me trompe. Et on s'oriente vers cette situation-là. Donc après, il s'agit de savoir si on maintient, comment compenser ces affaires-là. Voilà. Après, derrière tout ça, enfin, on tombe vraiment à un moment où ça devient l'usine à gaz. Parce que tout ça, même sur les affaires de compensation, aujourd'hui, il y a des réunions qui se font dans un autre cadre, qui est celui des territoires à risque inondation, enfin, on traite plutôt d'inondation, mais il y a aussi tout ce qui est développement de la vallée de l'Oise, et on dit oui, mais en fait, on va voir comment, globalement, on peut peut-être compenser sur la vallée de l'Oise. Enfin, les gens essaient aussi de réfléchir pour voir comment... décoincer, si j'ose dire, l'affaire.
Parce voilà, en tout cas. Compenser par des terrains qui seraient à l'extérieur de la ville, non, c'est ça ?
Aujourd'hui, théoriquement, pour compenser sur une zone humide, il faut compenser sur des terrains qui sont sur le même bassin.
Même bassin. Ah,
donc, il faut que, si on est sur la main fermée, il faudrait trouver des terrains qui sont sur le bassin de l'automne pour compenser. Et là, on nous dit, bon, attendez, on va voir...
Mais c'est 125% par contre, c'est ça ?
Vous c'est 150%.
150.
Un demi point.
Voilà où on en est aujourd'hui sur ces affaires-là. Je me sens... enfin voilà, je trouve que c'est un devoir d'en rendre compte au conseil municipal, de l'informer de tout ça. Cette affaire zone humide doit être validée par la commission locale de l'eau, au sein de laquelle nous ne sommes pas représentés. Et nous n'avons pas de représentants, c'est la communauté de communes de la Basse-Automne qui a un représentant.
Monsieur Bachelard.
Oui, monsieur Bachelard de Béthisy-Saint-Pierre. Voilà où on en est avec ces affaires-là et qui compliquent quand même extraordinairement les choses. Sur l'affaire... du schéma régional de cohérence écologique. Vous avez voté une délibération qui, évidemment, a été transmise au commissaire enquêteur. Ceci dit, le lendemain, je suis désolé, mais le lendemain, j'ai été prévenu. On m'a demandé d'aller regarder un point particulier du schéma régional de cohérence écologique sur lequel, nouvelle version de ce schéma, sur lequel le territoire de Verberie était complètement ciblé. Et on disait que le territoire de Verberie, je ne prends pas la formulation exacte, je ne l'ai pas là, mais sinon je vais même la transférer à tout le monde, le territoire de Verberie devait subir une vigilance particulière pour tous les projets d'aménagement de Verberie et de ses environs au niveau de la région. 26 points de vigilance, le premier des 26 points, c'est le territoire de Verberie est soumis à une vigilance particulière en ce qui concerne tous ces projets d'aménagement.
Et pourquoi il nous est comme ça ?
Alors, suite à ça, ça tu vas leur demander. Suite à ça, j'ai donc, je suis désolé, mais le conseil municipal s'était réuni. Donc, j'ai rédigé une lettre que j'ai signée en disant plusieurs choses de mémoire. La première, c'est qu'on nous disait que ces 26 points de vigilance avaient été ajoutés dans le document, jamais présentés en réunion publique, ni de concertation. Enfin, ajoutés dans le document à la demande de certains acteurs, sans que les acteurs ne soient désignés. Ça, je trouve que du point de vue déjà de la méthode, c'est assez, pour moi, assez scandaleux. 26 points, on n'est pas les seuls. Hein. J'ai dit, il y a le point 1, il y en a 26. Hein.
Enfin, on est en tête. Hein.
Mais il y a un deuxième point sur la vallée de l'automne aussi. Bon, et c'est pas le 2, c'est le 6, je crois. Et ensuite, effectivement, j'ai dit que c'était pas la méthode n'était pas admissible. Je vous transférerai la lettre pour ceux qui ne l'ont pas eue. Et que derrière ça, on demande à ce qu'il y ait une véritable concertation qui soit mise en place et que le document retrouve un aspect équilibré et quitte un aspect partisan, parce que pour moi, là, on est dans un aspect partisan, quitte cet aspect-là et retrouve un aspect équilibré entre préservation de la nature, qui est important parce qu'on est quand même, enfin, on voit ce qui se passe en ce moment, il y a quand même des phénomènes climatiques et autres qui interpellent, et aussi activité économique, parce que moi je pense que si on veut s'en sortir, on doit pouvoir s'en sortir par le haut, mais c'est bien en travaillant ensemble, c'est pas en travaillant les uns contre les autres. Voilà, donc c'était le cœur de ma lettre. Je peux, je vais vous l'envoyer de toute façon pour ceux qui ne l'ont pas eu, que vous puissiez la lire tranquillement à tête reposée. Ceci dit, ça s'est fait très vite, hein, parce qu'on a fait conseil municipal le 9. J'ai été prévenu le 10 ou le 11. J'ai rédigé la lettre et le dernier jour l'enquête du commissaire enquêteur, c'était le 15. Donc cette lettre, je l'ai rédigée. Je l'ai fait valider au moins par les adjoints qui étaient présents, parce qu'on était aussi pendant les congés. Et donc, je l'ai mise et je l'ai signée et je l'ai donnée au commissaire enquêteur. D'ailleurs, le rapport du commissaire enquêteur doit être sorti. Il faut qu'on aille voir ça. Voilà un peu, pour moi, ça termine. Je ne voudrais rien ajouter après. Enfin, de ma part, j'ai plus rien à ajouter. Autre point. Très bien. Il n'y a pas de questions diverses. Dans la salle, non. Donc le conseil est clos.